Francesco Contino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'école polytechnique de Lucé-Louvain. La Belgique et Oman ont signé lundi un nouvel accord afin de renforcer leur coopération sur l'hydrogène vert. À terme, l'objectif est d'importer de l'hydrogène vert depuis l'État du Golfe. Pour commencer, quel est l'avantage pour la Belgique énergétiquement de signer un tel accord avec Oman ?
Malheureusement, la Belgique n'a pas beaucoup de ressources, de potentiel en termes d'énergie renouvelable. Alors, on a un petit peu de côte et on peut mettre, et on a été longtemps des leaders en termes d'installation d'éolien offshore, mais malheureusement, on n'a pas une côte si grande que ça. On a un petit peu de surface et donc on peut avoir un petit peu de biomasse et de solaire photovoltaïque, mais malheureusement, si on combine l'ensemble, ben, on arrive péniblement à un tiers, peut-être dans le meilleur des cas, un demi de la demande qui peut être couverte par notre propre approvisionnement. Et donc, il faut couvrir par d'autres choses. La décision qui a été faite, c'est de moins miser sur le nucléaire et de plus miser sur les imports de combustibles renouvelables qui viennent de l'étranger. Et Oman est un des exemples que vous évoquez.
Avec cet accord, la Belgique souhaite devenir pionnière en la matière d'hydrogène vert. Elle en a vraiment les moyens ?
Alors, elle a en tout cas beaucoup de caractéristiques qui peut la mettre sur la carte. Un des atouts, c'est d'avoir des acteurs industriels importants justement dans ce domaine. Un autre atout, c'est d'avoir un réseau de transport du gaz qui est extrêmement développé, qui lui sert comme plateforme de distribution du gaz. Ça a permis, par exemple, d'approvisionner l'Allemagne quand l'Allemagne a dû couper le robinet ou a été forcée de couper le robinet avec la Russie. Et demain, ça sera une plateforme de transport du gaz, mais plus du gaz naturel, du gaz renouvelable qui viendra d'ailleurs. Et donc, oui, il y a plusieurs avantages, plusieurs éléments qui font que la Belgique peut avoir non seulement les moyens, mais peut être un acteur important dans ce domaine.
Si je comprends bien, c'est principalement géographique.
Alors, c'est géographique, oui et non. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on est au centre de l'Europe, là. Donc, on est entre d'autres de grosses puissances. On a historiquement été le lieu de transfert de pas mal d'énergie, que ce soit sous forme électrique ou gaz. Et ici, on va continuer grâce à notre port à Zeebruges et notre plateforme qui est développée par Fluxys à Zeebruges, qui s'attend à des vecteurs énergétiques différents, à continuer à jouer ce rôle. Mais voilà, on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs autres, plateformes, enfin pas plateformes, mais plutôt ports d'accueil pour les gaz qui sont en concurrence. Et donc, il faudra voir qui va s'en sortir le mieux.
Alors, on parle d'hydrogène et d'hydrogène vert. Y a-t-il une différence entre ces deux hydrogènes ?
Alors, de plus en plus, on essaye de sortir du code couleur pour l'hydrogène parce que ça peut prêter à confusion. L'objectif de l'hydrogène qu'on voudrait importer, c'est un hydrogène, à base d'énergie renouvelable. Il a été produit simplement en cassant une molécule d'eau à partir d'énergie renouvelable. À la différence de l'hydrogène qu'on produit maintenant de manière majoritairement, et quand je dis majoritairement, c'est à plus de 90%, à partir de sources fossiles, soit du charbon, soit du gaz naturel. Demain, on espère le produire à partir d'autre chose que du fossile, et l'espoir, c'est de le produire à partir d'énergie renouvelable.
Donc pour l'instant, l'hydrogène n'est pas considéré comme une énergie renouvelable, une énergie verte ?
Alors, s'il est produit, il y en a une petite fraction qui est produite à partir d'énergie renouvelable, très faible, mais la plupart de l'hydrogène qui est utilisé essentiellement maintenant dans l'industrie est issu de ressources fossiles. Et donc, l'espoir, c'est demain de produire à partir de ces ressources renouvelables, en effet.
Ce potentiel hydrogène vert, à quoi il pourrait nous servir ? À nous chauffer, à faire fonctionner nos véhicules ?
Alors, d'abord et avant tout, à fournir l'hydrogène qui est utilisé de manière massive pour l'instant dans l'industrie de manière renouvelable. Donc éviter cet apport fossile. Et dans l'industrie, on l'utilise dans la pétrochimie, donc dans tout ce qui est utilisation pour traiter des matières premières. Demain, ce sera peut-être des matières premières qui viendront d'autres sources. On devra toujours utiliser des hydrocarbures, mais idéalement pas de fossiles. Là, l'hydrogène aura un impact. Une autre utilisation majeure de l'hydrogène, c'est pour tout ce qui est production de dérivés de l'ammoniac qui sont propres à la production d'engrais. Et donc, c'est la première utilisation de l'hydrogène. Finalement, pour monsieur tout le monde et monsieur et madame tout le monde, ça ne sera pas visible. La première utilisation de l'hydrogène est dans l'industrie. Ensuite, il y aura peut-être d'autres utilisations, essentiellement probablement des dérivés d'hydrogène, c'est-à-dire des molécules plus complexes qui utiliseront du CO2 ou de l'azote, de l'air, pour produire des molécules qui vont permettre d'être facilement stockées. Ça, c'est un enjeu de l'hydrogène, hein, c'est pas facile à stocker. Et pour servir au transport, transport routier, transport maritime, transport aérien. Le chauffage, c'est peu probable, si ce n'est pour, comme je le disais, pour l'industrie et produire des températures très hautes. Et pour le transport de personnes, a priori, c'est aussi assez peu probable. Ce sera plutôt du transport électrifié dans ce cas-là.
Ce genre d'accord dont nous parlions entre la Belgique et Oman, c'est indispensable pour penser à nos sources d'énergie de demain? Si on va dans le bon sens?
Alors, si on s'inscrit dans une sortie du nucléaire, ça c'est, effectivement, il faut sécuriser une chaîne d'approvisionnement de ces molécules renouvelables. Et effectivement, l'accord, ça, c'est pas, je dirais que ça s'inscrit déjà dans de nombreux contacts qu'il y a eu avec Oman, hein, et c'est pas le seul pays avec lequel il y a des contacts, permet s'assurer une certaine chaîne d'approvisionnement. Alors, je n'ai pas eu encore le détail des quantités qui ont été dans l'accord. Je ne sais pas si c'est public, mais il faut pas oublier que pour l'instant, on apporte de l'extérieur 80% de notre énergie sous forme fossile, et c'est des quantités qui sont faramineuses. Donc ici, je dirais que cet accord ne couvre que certainement qu'une portion très congrue de cette énergie qu'on apporte pour l'instant. Donc c'est faut pas croire qu'on a résolu tout le problème. C'est presque un démonstrateur qu'on est en train de faire, de voir toutes les choses qui peuvent aller ou être un peu plus difficiles, tous les challenges qu'on va rencontrer pour plus tard avoir de multiplier ces accords pour pouvoir importer une partie non négligeable de notre énergie.
Justement, en début d'intervention, vous disiez que la Belgique avait beaucoup d'éoliennes, mais que nos côtes étaient très restreintes. La Belgique sera toujours géographiquement restreinte et dépendante de ses voisins?
Oui, c'est plus que probable. La question qui est encore très difficile à laquelle il est très difficile de répondre, c'est quid des interconnexions électriques avec les autres pays. Certains modèles, certaines simulations montrent que si on se débrouille entre Européens, on peut s'en sortir, mais avec le besoin de beaucoup plus échanger d'électricité et d'autres matières. Et ici, en l'occurrence, on prend le pari de un peu moins risqué, de ne pas faire que de l'interconnexion entre pays européens et d'aller chercher ailleurs. Sinon, effectivement, la Belgique, ben voilà, on n'a pas beaucoup de surface, on a des limites et des challenges aussi au problème du, vous savez, du NIMBY, hein, donc si on veut mettre de l'éolien, ben on n'a pas envie que ce soit près de chez soi, et malheureusement, en Belgique, c'est toujours près de chez quelqu'un. Donc, il y a toute une série de contraintes qui sont bien compréhensibles et qui d'une certaine manière nous limite dans la transition énergétique et qui explique pour la raison pour laquelle on va chercher des molécules ailleurs.
Francesco Contino, je rappelle que vous êtes professeur à l'école polytechnique de l'UCLouvain. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.